Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le jour. Grâce à Mzati. À la une de l'actualité, des engagements de la MONUSCO de la province du Sud Kivu, la mission des Nations Unies a remis ce mercredi sa base de Kamanyola au gouvernement congolais. Rachel Kiese, qui s'est rendue sur place, nous en dit plus dans quelques instants. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi à Bruxelles où il a été reçu par le Premier ministre du Royaume de Belgique pour échanger notamment sur la coopération bilatérale, la situation sécuritaire, mais aussi sur le protocole d'entente signé récemment entre le Rwanda et l'Union européenne concernant les minerais stratégiques. L'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, lance un appel à tous les habitants de Goma, en particulier les déplacés venus de l'axe Sakimasisi, d'être prudents face aux risques liés à la concentration du gaz carbonique à certains endroits autour des camps des déplacés. Nous en parlons avec notre invité Charles Balagizi, directeur scientifique de l'OVG. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire. Sachez tout d'abord que 7 élèves d'une école secondaire du territoire des Kabare au sud Kivu sont morts sous la pluie d'hier mardi après-midi. Alors que les victimes sortaient de l'école, elles ont été surprises par la décharge électrique naturelle sous la forte pluie, faisant ainsi des morts et des blessés. Le gouvernement provincial du sud Kivu dit apporter assistance aux familles affectées. À toutes et à tous, bonsoir. Dans la province du Sud Kivu, la MONUSCO a remis aujourd'hui sa base de Kamanyola au gouvernement congolais. Une délégation des Nations Unies et gouvernement conduite par la chef de la MONUSCO et le gouverneur ad intérim du Sud Kivu était sur place à Kamanyola dans les territoires de Walungu pour la circonstance. Témoin de l'événement, Rachel Kesimbangu.
C'est aujourd'hui que la MONUSCO a remis sa base jusque-là occupée par les casques bleus pakistanais. La MONUSCO est présente dans la cité de Kamanyola depuis 19 ans, et cela à travers le contingent pakistanais pour la protection des civils. Partenariat qui, selon le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, a donné naissance à des réalisations importantes au profit de populations. La police nationale congolaise qui a reçu cette base rassure la population de Kamanyola de poursuivre sa mission de protection des civils et de leurs biens. Les commissaires supérieurs Bakuka Ngoli Kwenda Dona, commandant responsable de la base de Kamanyola, remise en ce jour à la PNC.
La police a une mission de protéger les personnes et leurs biens. Et c'est comme ça que la même mission qui était dévolue à la MONUSCO, c'est presque la même mission qui continue après la MONUSCO. La mission ne change pas. Tout celui qui ne veut pas marcher conformément aux lois, eh bien, vous connaissez vous-même ce qui lui arrive. Sera mis hors état de nuire. C'est ça ma première mission. Il y a une mission de la MONUSCO qui se désengage et la police prend la relève et la mission continue, Adam. La population doit continuer à nous faire confiance.
Ce camp sera occupé dorénavant par les unités d'intervention de la PNC. Cette remise intervient dans le cadre du désengagement de la MONUSCO de la province du Sud Kivu. De Kamanyola, dans le territoire de Walungu, Rachel Kissé, Radio Okapi.
Et au nord Kivu voisin, après au moins 3 jours passés en déplacement, les 500 familles des quartiers Lubango et Makengele de l'agglomération de Bambo sont autorisées de regagner leur maison. C'est dans la chefferie de Buite au territoire de Rutshuru. Selon certains notables locaux, cette décision des rebelles du M23 est annoncée dans l'après-midi de ce mercredi. Rappelons que ces populations ont été contraintes par les rebelles dimanche soir de vider les deux entités et transférer vers Bugina, dans le groupement voisin de Tongo, et les autres vers le sud de l'agglomération de Bambo. Le M23 aurait décidé ces transferts peu après une embuscade étendue par les présumés combattants locaux contre une de ses patrouilles venues de sa position stratégique riveraine aux deux quartiers. C'était dans la nuit des samedis à dimanche dernier. Et puis, la nouvelle société civile du territoire d'Idiofa Okwilu dénonce la montée de la criminalité constatée ces derniers temps dans cette entité. Dans un entretien hier avec Radio Kapi, son coordonnateur Arsène Kassiama fait savoir que depuis les débuts de cette année, au moins 3 personnes sont déjà tuées par des jeunes gens dans 3 secteurs. D'après lui, ces actes sont posés notamment à cause des conflits des pouvoirs coutumiers et des conflits fonciers. Irène Bomaluzolo.
Parmi ces trois cas de meurtre par justice populaire enregistrés dans les territoires du Djofa, le tout dernier cas en date, c'est celui intervenu mercredi dernier à Kalo, situé dans le secteur portant le même nom, où un agent de l'ANR a été sauvagement lapidé par les jeunes gens. Arsène Kassiama est le coordonnateur de la nouvelle société civile du Djofa.
Depuis le début de l'année 2024, trois décès déjà. L'un dans le secteur Mosanga, dans le village Mibambi, l'autre à Kalo et l'autre encore là dans le secteur 16. Et la cause, c'est le conflit du pouvoir coutumier, le conflit foncier. Il y a les féticheurs qui vont dire que c'est un tel qui a posé tel acte et les jeunes gens vont agir. Le dernier cas, il y avait un féticheur qui aurait désigné que la mort de telle personne, c'est un tel qui est à la base. C'est cet agent-là de la mer qu'on avait lapidé.
Cet acteur de la société civile appelle les jeunes gens de cette entité à cesser avec ces actes de violence qu'ils condamnent.
Éliminer nos frères comme des moutons, ce n'est pas bien. Qu'ils cessent avec cette pratique et qu'ils n'honorent pas notre pays.
La même source pense que l'affectation des juges dans les instances judiciaires du Djofa pourra stopper tant soit peu cette montée de la criminalité dans ces coins de la province du Kwilu. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Comme dit dans les titres, après Luanda, en Angola, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé aujourd'hui à Bruxelles, la capitale belge, pour une visite officielle. Aussitôt arrivé, il a été reçu par le premier ministre du Royaume de Belgique, Alexander De Croo. Le tête-à-tête entre les deux hommes a porté notamment sur la coopération bilatérale, la situation sécuritaire, mais aussi sur le protocole d'entente signé récemment entre le Rwanda et l'Union européenne sur le minerai stratégique. C'est à ces sujets précisément que le président Félix Tshisekedi s'est exprimé au sortir de sa rencontre avec le premier ministre belge. On l'écoute dans cet extrait que nous propose Cynthia Bachizi Nabizana.
Des sanctions, c'est la seule chose qui pourra faire reculer ce dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce que elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo, et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci.
C'était là le président de la République, Félix Tshisekedi, depuis Bruxelles. Direction le Congo central, où 9 députés provinciaux sur les 36 élus et proclamés provisoirement par la CENI renoncent à leur siège à l'Assemblée provinciale. Cette information est livrée par les bureaux provisoires de cet organe délibérant à l'issue d'une séance plénière présidée par le président Thomas Yobila. Une commission spéciale et temporaire chargée de vérifier les dossiers de leurs suppléants est mise en place. C'est ce que nous dit Nana Plurichimambo.
Les 9 députés provinciaux ayant renoncé à leur siège à l'Assemblée provinciale du Congo central sont l'élu de Matadi Bandundungi Digui, actuel gouverneur de province, celui de Mwanda Matumpa Buka Marcel, gouverneur de province intérimaire honoraire, celui de Kasangulu Boudimbu Tombouanga Didier, ministre national des hydrocarbures sortant, Matoumé Nazola, Mukoko Kinavui Didier, Ngoudian Zabayoki Sanefertiti, Nsumbu Mutukala Vaupierre, Samba Situ Edouard, ainsi que Wameso Kwaloloki André, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge de l'Ecofin. Dès le vendredi prochain, ces derniers seront remplacés par leur premier suppléant. Une commission spéciale et temporaire a été mise en place au cours de cette plénière pour étudier les dossiers de ces derniers. La dite commission pilotée par les députés Landou Mukoyo a 2 jours pour des travaux à dater de ce vendredi 27 février. Selon le président du bureau provisoire, le député Yobila Banzenza Thomas, les rapports de la commission est attendu le vendredi 1er mars par la plénière en vue de son adoption. Plusieurs sources affirment que ces députés provinciaux renonciateurs seront candidats aux élections soit sénatoriales soit de gouverneurs. Cependant, jusqu'à présent, seul Didier Boudimbu, ministre national des hydrocarbures sortant, a déjà déposé sa candidature parmi eux tous. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa fustige le dernier arrêté signé par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui, selon la PUKIN, frise la politisation à outrance du secteur de l'ESU. Son président, professeur David Loubou, dénonce notamment la nomination de certains comme professeurs de l'université de Kinshasa sans que leur dossier n'ait suivi la procédure normale. Le président de la PUKIN plaide pour la dépolitisation de l'université. Professeur David Loubou est au micro de Michel Kifindangoy.
Il y a un climat de malaise au sein de l'université de Kinshasa provoqué par le dernier arrêté de promotion signé par le ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Cet arrêté nomme certains compatriotes dont les dossiers n'ont pas suivi la procédure. Encore, il faut signaler que tout doctorat ne débouche pas sur l'enseignement. Il y a des doctorats professionnels. En plus de cela, tout docteur qui n'a pas été nommé chef de travaux à l'université de Kinshasa, lorsqu'il amène un doctorat qui vient d'ailleurs, il apprend la liste des dossiers par les instances habilitées, les départements de la faculté, les comités de gestion, les conseils de l'université auxquels la PUKIN participe. Mais pour certains dossiers, comme ceux qui sont dans cet arrêté-là, la PUKIN n'a pas été représentée. Tout ce que nous demandons, c'est la conformité à la procédure. Il sera difficile que nous acceptions comme association les moutons noirs au sein de notre alma mater.
En réaction, le ministre de l'Enseignement supérieur précise que les dossiers de Vital Kamerhe a bel et bien respecté toute la procédure partant du département au ministère en passant par le conseil facultaire, le comité de gestion de l'UNIKIN, puis le conseil d'administration des universités. Mwindo Zangi souligne par ailleurs que Vital Kamerhe a même été assistant à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. Il recommande donc à la PUKIN de poser la question au doyen de la faculté de l'économie pour d'autres éclaircissements. On écoute le ministre Mwindo Zangi au micro de Michel Kifindangoy.
Je crois qu'il y a une confusion. Le ministre, c'est le consommateur final de la procédure qui commence par le département, la faculté, l'université et puis le conseil d'administration. Comme vous le savez, il y a eu des conseils d'administration qui sont suivis à Kolozi et puis à Boujimaï. Et donc, tous les dossiers étaient à traitement au niveau du conseil d'administration. Ils nous sont arrivés et nous les avons signés. Je sais qu'il y a un tollé par rapport à la nomination de Vital Kamerhe, mais je voudrais bien préciser que Vital Kamerhe a un dossier complet. Il a un dossier de son département, il a un dossier de sa faculté, il a un dossier de son université. La PUKIN doit poser des questions au doyen de faculté de l'économie. Et il faut ajouter que Vital Kamerhe a été assistant à l'université de Kinshasa. Qu'on l'aime pas, c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde. Il a un dossier complet et je ne vois pas pourquoi il ne doit pas être nommé professeur.
La ville de Kamina et ses environs dans les Haut-Lomami sont toujours plongés dans le noir depuis plusieurs mois. Les turbines de la centrale de Kiloubi qui les alimentent sont en panne. Sur place, les conséquences socio-économiques obligent la population locale à solliciter l'implication des autorités pour qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais. Jean Gandou.
L'espoir des habitants de Kamina de voir les ampoules allumées s'effrite au fur et à mesure que les jours passent. Les pièces défectueuses de la centrale de Kiloubi, envoyées aux ateliers centraux de Panda à Likasi pour réparation et fabrication, ne sont toujours pas de retour. Sur place à Kamina, les conséquences se font déjà sentir. L'eau ne coule pas des robinets et les vivres frais sont rarissimes sur les marchés. Ceux qui les ont les vendent à un prix exorbitant. Les opérateurs économiques qui le peuvent recourent aux groupes électrogènes et autres panneaux solaires juste pour l'éclairage. Ce n'est pas tout. D'après certaines sources, la conservation des corps à la morgue pose problème. Outre les frais administratifs, les familles éprouvées sont obligées d'amener aussi les bidons de 20 litres de carburant, notamment le mazout. Cette information n'est pas encore confirmée par les sources de l'hôpital. Le responsable de la SNEL à Kamina demande à la population de prendre son mal en patience car les pièces attendues des ateliers centraux de la Gécamine Panda à Likasi seront disponibles au cours de ce premier semestre. À noter que la centrale de Kiloubi date de 1950. Et depuis lors, elle n'a jamais été modernisée. Et toutes ces trois turbines sont en panne. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le syndicat nigérien du travail a entamé hier une protestation de 2 jours à Lagos. Les manifestants en colère menacent de fermer des services clés en représailles à l'inflation galopante et les affres d'une économie au bord de l'asphyxie. Au Mali, la ville de Menaka a accueilli un important convoi de marchandises lundi 26 février. Cette ville du nord, près de la frontière avec le Niger, est soumise à un blocus imposé notamment par le groupe État islamique au Sahel et IS. Alors que les denrées de base manquent et que les prix ont explosé, l'arrivée de ces marchandises est un véritable soulagement pour la population.
L'invité.
Au Nord Kivu, l'Observatoire volcanologique de Goma appelle toute la population à sécuriser les matériels de surveillance des volcans qui sont installés dans leur quartier et qui sont souvent vandalisés par des inciviques. Par la même occasion, l'OVG lance un appel à tous les habitants, en particulier les déplacés venus de l'axe Sakimasisi, d'être prudents face aux risques liés à la concentration du gaz carbonique à certains endroits autour des camps des déplacés. La population est appelée à respecter les délimitations des sites déjà identifiés qui présentent le danger d'asphyxie. Charles Balagizi, directeur scientifique de l'OVG, s'entretient à ces sujets avec Sifa Maguru.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame la journaliste.
Est-ce qu'il y a d'autres défis en dehors des aspects techniques? Est-ce qu'il y a d'autres défis enregistrés ça et là par rapport à votre travail?
Oui, il y a des défis et les défis c'est par rapport à la population. Donc on a certains senseurs, n'est-ce pas? Qui sont des comme des petits boîtiers, n'est-ce pas, qu'on déploie pour mesurer la température ou bien la déformation de sol, et la plupart des fois c'est vandalisé. Et donc je souhaite encore à travers votre micro, n'est-ce pas, et rappeler la population de Goma que ce matériel c'est pour nous sécuriser nous tous. Et donc ils sont appelés à les protéger parce que plus ce matériel est fonctionnel, n'est-ce pas, plus nous avons des informations, des qualités à fournir, n'est-ce pas, à la population.
Est-ce que la population les identifie bien? Ça ressemble à quoi? On les vandalise expressément ou comment?
Oui, c'est connu. Nos sites de mesure, nos stations sont connues, n'est-ce pas? Nous avons eu à discuter avec des points de relais qui peuvent être comme des chefferies et tout ça pour essayer un peu de vulgariser. Donc, c'est connu. Et donc, on rappelle encore une fois que ce matériel est fait seulement pour surveiller le volcan. Il ne sert à rien d'autre. Ça, c'est le message que j'aurais aimé faire passer à la population, n'est-ce pas? Et aussi dire que, voilà, il y a des populations qui sont déplacées, on est d'accord avec eux, et donc on a des endroits dans Goma où la concentration des gaz est très élevée, n'est-ce pas? C'est ce que nous appelons communément les mazoukou. Et donc, nos frères qui se sont déplacés devraient tirer beaucoup d'attention, n'est-ce pas? Ne pas se promener en dehors des zones qui sont indiquées dans les camps, parce que nous travaillons avec les partenaires, les collègues qui travaillent dans les camps pour donner une vie plus ou moins acceptable pour nos frères. Et donc, on a fait un travail d'identification des sites qui sont propres et ceux qui sont impropres, n'est-ce pas? Et donc, on invite tout le monde, n'est-ce pas, à respecter ces délimitations pour des raisons de sécurité, parce que c'est quelques minutes seulement et on est vraiment fauché, on perd la vie.
Brièvement, voilà. Pour ceux qui n'ont aucune idée, c'est où, par exemple, par rapport à la ville de Goma, où sont les endroits qui sont dangereux par rapport au gaz?
Par rapport au gaz, on a la région de Boulengo, n'est-ce pas, et Lac Vert, qui sont des endroits qui ont des concentrations de gaz les plus élevées, qui sont mortelles, n'est-ce pas? Dans le temps, on avait fait des panneaux de signalisation, mais ça avait encore été vandalisé. Mais on a fait quand même de nombreuses campagnes de sensibilisation. On va encore les relancer parce que il y a des populations qui sont nouvellement déplacés vers la région de Goma et ses environs, et donc qui ne sont pas au courant de cette situation. Et donc, on invite tout le monde à nous aider, n'est-ce pas? Une parole peut sauver une vie, n'est-ce pas? Quand nous avons notre frère qui vient de Masisi, qui vient de Rutshuru, qui vient de Sake, de Kiroche, enfin, de partout, qui arrive dans une région, tout le monde peut faire passer le message. Et d'ailleurs, on était sur le terrain, je crois, mardi, et on a trouvé qu'il y avait des gens qui venaient de Sake, qui se sont installés à proximité de ce site. Et on n'a pas traîné, on a informé les partenaires qui sont impliqués pour essayer un peu de prendre des mesures. On a également le coin de Kieshero, n'est-ce pas, où vous pouvez trouver aussi de petites poches de concentrations de COD assez élevées. Et donc les concernés sont informés, on y passe régulièrement pour faire des mesures et donc que les gens puissent tirer beaucoup d'attention. Si vous avez un visiteur, vous avez accueilli un familier qui vit chez vous, qui vit chez le voisin et tout ça, surtout les enfants, des grâces, il faudrait leur montrer les points les plus dangereux de manière à ce que chaque vie compte.
Merci beaucoup, monsieur le directeur.
Je vous en prie, madame.
Okay.
Le directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma était interrogé par Sifa Maguru. Voilà qui met fin à ce radiojournal coordonné par Jude Bilanda et supervisé par Pele Kipelamondo. Jean-Claude Nsiala, Mwana Makengo Swalu était à la mise en onde. Vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiokapi.net. Merci et bonne suite de l'antenne au Kapi Soir avec Nicole Koudiangela.